La musique.
Caravana maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Só for da laga.
Alors voilà, les oreilles libres, alors il y a un petit peu de retard, toutes nos excuses. Oui, des problèmes de transport en ce qui me concerne, et ben du coup on va pas tarder à écouter Alec Aradfir. Nous étions à Reims mercredi soir dernier. Nous étions à Reims avec Xavier. Vous allez avoir le plaisir d'entendre Xavier dans notre émission. Xavier, qui se fait rare hein, chez nous ces temps-ci. Et on a été reçus vraiment à Reims, un beau lieu, une maison autogérée à Reims, à l'Écluse, 4 rue de la Cerisaie à Reims, et je vous encourage tous les Rémois à aller là-bas. Mais je vous encourage maintenant à écouter Aleka Redfern.
Je suis Aleka Redfern. Aleka Redfern et les Isors. Pour les oreilles libres sur Radio Libertaire.
Thank you.
Voilà, 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 voilà. Et alors, j'avais préparé une liste de questions. Et puis, devant la carrette firme, j'étais un petit peu, je ne dirais pas interdit, mais bon, j'ai posé la question la plus bête qui soit. Et j'étais surpris parce qu'il a répondu, en fait. Et la question que j'ai posée à Alec K. Redfern, c'est « Are you anarchist ? Êtes-vous anarchiste ? » Je reconnais que c'est pas... Je ne rentrerai pas dans les écoles de journalisme avec cette question-là, mais ça ne me dérange pas tellement. Donc, voilà la réponse de Alec Redfern.
I am what you would call politically very ambivalent person. I feel a great distrust for all political groups. So in that sense, yes, I am an anarchist.
Il dit que il est un peu en marge de tout ce qui est politique et un peu déçu de tout ce qui peut être politique et de en sens politicien et tout ça. Donc en un sens, oui, il est anarchiste.
But I also don't have a great deal of faith in humanity.
Et il dit aussi qu'il n'a pas une grande foi dans l'humanité.
So I fear what true anarchism means. So I fear that there will be a certain that if things completely broke down, that we would become potentially more animalistic in both good and bad ways.
Donc en fait quelque part il a peur de ce que pourrait être l'anarchisme. De savoir ce que ça pourrait donner et que quelque part est-ce qu'on pourrait être plus proche d'un état peut-être animal avec les bons côtés, les mauvais côtés.
Don't be afraid.
Okay. However,
il faut pas avoir peur.
I am a big fan of Hawking Bay and the temporary autonomous zone model of anarchism.
Mais par contre, il est un grand fan de Hawking Bay et de la ZAD.
Newspeak, these are temporary autonomous.
La question, it was a joke, une plaisanterie, êtes-vous anarchiste? Mais pour autant, le style de musique que vous faites est hors norme. Et voilà, moi j'aimerais bien savoir comment vous êtes arrivé à faire ce genre de musique. Est-ce que vous avez commencé en faisant ça ou peut-être du rock?
I think from the very beginning, I started out playing in a SST Records influenced rock band called Laverne, and it was and before that I did a kind of very chaotic sounding before I knew how to play any instruments. I had a very chaotic sounding band called Classic Migraine, and that was just trying to be as offensive as possible. But I was 14 years old, so I wasn't completely successful, but it set the tone of everything that came
out. Au tout début, il a commencé avec un groupe qui était assez chaotique, il savait pas bien jouer d'instrument, donc il faisait quelque chose d'assez offensif. Et c'est quelque chose qui lui a toujours resté important pour lui, de cet aspect-là un peu fou et comme ça, avec pas mal de possibilités. Et ensuite, il a fait un gros groupe de genre assez rock, plutôt classique.
Vous avez commencé avec l'accordéon?
Did you begin to play with accordion or it came later on?
No, I was a bass player. Mm-hmm. I started out playing bass when I was about 16 and I studied and was eventually getting into playing jazz a little bit, starting to play jazz a little bit, and then I decided I don't want to play jazz. I joined a sort of Dadaist performance art group called Meatballs Fluxus, and we performed a lot of free improvised music, and I learned about John Cage, I learned about Harry Riley, and I learned about I also, you know, Rhode Island is a lot of Italian immigrants, and when I was about 20 years old, I had gotten some money back from taxes, and I was on my way to the music store to buy a bass, and I stopped at a pawn shop, and instead of buying the bass, I bought an accordion and a guitar. So I bought I want that. Yes. And then I just obsessively played it for 100% pretty much ever since, really. They've just called me. They called me up.
C'est-à-dire qu'il a, en fait, non, il a commencé à 16 ans à jouer de la basse, donc il a joué beaucoup de basse, il commençait à jouer un petit peu aussi du jazz, et puis il y a André ici qui voulait, il en avait marre de jouer du jazz, et il s'est mis avec un ensemble, un groupe un peu de performance artistique, il faisait beaucoup de musique improvisée, et donc ils ont commencé, il s'est mis à écouter du John Cage, Terry Riley, tout ce genre de musique, et... Après, à un moment donné, en fait, il vivait pas loin de Rhode Island. Il y avait pas mal d'immigrants italiens. Et puis, il a récupéré de l'argent. Et il disait qu'il pensait aller s'acheter une basse. Et puis, en allant au magasin de musique, il a vu un accordéon et une guitare. Il s'est dit, non, je veux ça. Et donc, il a acheté un accordéon et une guitare. Donc, il avait 20 ans. Et depuis, voilà, il s'est mis à jouer de l'accordéon.
Tu as appris à jouer tout seul? Tu es autodidacte?
Did you learn to play accordion alone or with somebody? Or
I took lessons for about a couple of months, maybe 3 or 4 months, and then I learned on my own up until for the next 11 years. Mm-hmm. And then I took lessons for about a year when I was 30, and I've been kind of learning on my own since.
Yeah. Au début, oui, il a pris pendant 3-4 mois, il a pris des leçons d'accordéon. Après, pendant 11 ans, il a appris tout seul. Et ensuite là, il a repris pendant un an des leçons, et puis après depuis ça il continue à travailler lui-même.
Ouais.
What's that?
It's
pretty good.
Okay.
Pretty thorough. Alright. It's good you got meatballs in there.
Yeah, we gotta go. Matt and I have known each other since we were very young. Mm-hmm. We've been playing music together for decades. Many
some
decades.
High school bands.
Rock bands. Since the late 1980s, Matt.
And what's your name, your last name?
McLaren.
Yeah. Matt McLaren, qui est le batteur avec Alec Carretfirn et The Eyesores. En fait, ils jouent ensemble avec Alec depuis qu'ils sont allés au lycée. Donc, ils ont fait pas mal de groupes de lycée ensemble depuis la fin des années 80.
Alors, j'ai lu sur Internet que le fait de passer à l'accordéon, c'était pour dire « fuck you ». Rock and roll.
He read on the internet that you stopped to play accordion just to say fuck you to the rock style.
Around the time I started playing accordion, it was about 1990, and two musics were forming in the underground. There was the K Records style twee pop, what is now called twee pop, and then there was grunge, and to me both of them seemed like watered down versions of what was happening throughout the 80s. It seemed like they were trying to be radio friendly, they were trying to be commercial, they were trying to make underground music very commercial, and to me I took that as an affront at the time. I was young. I've gone back and listened to some of that stuff and I don't mind it as much. I feel like I was a little unfair in my judgment. But it was the impetus of playing accordion I wanted to do. To play an instrument that nobody was really playing in rock music, and certainly in punk rock at the time, nobody was. There was Pogues and there was Pulpasaga. And those are the only punk bands I knew with the accordion. I wanted to take a very different approach than they were doing. So I got into rock and opposition prog, and the X and bands like that, the stuff that was coming from Europe in the 90s. And you know, I had a lifelong love of Syd Barrett, the early Pink Floyd, the music, and also the Dada and the Fluxus movements were very important to me at that point, early on. That brand of obnoxiousness really appealed to me. Like, I wanted to fuck with people's heads.
Donc, en fait, la chose, c'est que dans la vers 1990, il y avait dans le milieu un peu alternatif, underground, il y avait deux principaux mouvements qui apparaissaient. C'était le grunge et le trip hop. Et pour lui, en fait, à l'époque, il trouvait que c'était un peu quelque chose qui faisait. C'était une ressucée de ce qui a été dans les années 80, et c'est juste des gens qui essayaient en fait de faire quelque chose de commercial, faire ça. Et donc lui, ça l'intéressait pas. Et donc Et donc c'est pour ça qu'il a, il a voulu prendre un instrument qui soit pas du tout joué dans, dans le rock, dans, tout cette, dans tout genre de musique, qui était l'accordéon. C'est vrai qu'à l'époque, pratiquement personne ne jouait de l'accordéon, il n'y avait pratiquement pas, pas de groupe. Et après, il s'est mis aussi à proche après de mouvements comme Rock in Opposition, de ZX qui venait. Et plus tard, après aussi, tout ce qui était autour du folk, donc un peu le revival folk, qui, dont il a fait un mélange. Et c'est un peu intéressant, c'est vrai qu'en France, on a eu, peut-être que tu connais pas trop le rock français un peu, et c'est vrai que dans les années 80, on a eu aussi, surtout vers la fin des années, la deuxième partie des années 80, beaucoup de groupes qui sont mis à réutiliser l'accordéon, qui était auparavant considéré en France comme un accordéon très populaire de musique, et qui a été réintroduit dans la musique plus jeune, si on peut dire plus rock, plus alternative, à partir des années 80. But we're saying that in France, there is a lot of groups who began to play accordion in the 80s.
Yeah.
And because before it was just say the accordion it was for the old people and right. kind of very popular thing, and yeah. nobody wanted to play accordion. A lot of people I know, I have friends who play accordion when they were as young,
yeah.
and they just stopped at 16 or 17 because they say, "Oh, accordion! Well, you are playing for old people."
Yeah,
you know?
Yeah.
And after, just one question: it's the same thing in the States. Accordion was kind of an instrument you say that's for old people and kind of.
Do you know about the Lawrence Welk show?
No.
Okay, that was a TV show that was on in the 60s and 70s mm-hmm. in the U.S., and it was music for old people.
Mm-hmm.
Lots of accordion, polkas, and, you know, like, sort of, like, swing numbers. And they actually had a really incredible band. These guys were unbelievable. Everyone in the band was required to not only be a virtuoso, but be a virtuoso on several instruments.
Mm-hmm.
But it was very, very watered down, very cheesy music, but it was a certain level of virtuosity that I respected. But that was most people's idea of what the accordion was about. It was the Lawrence Welk and Weird Al Yankovic, you know, joke, it was a joke instrument. And I was like, what if I play this instrument and take it seriously? Why not? Why not take it seriously? Why not treat it like a weapon? You know?
Et oui, c'était un peu la même chose aux États-Unis. Il y avait notamment un show TV dans les années 60-70 où il y avait justement tous ces vieux musiciens qui venaient, donc avec des grands virtuoses, et l'accordéon était très très présent. Donc ils avaient, en effet, c'est des gens qui jouaient souvent plein de plusieurs instruments et beaucoup d'accordéon. Mais c'est vrai qu'ils jouaient souvent, c'était toujours les vieilles musiques, les swing, et puis bon, avec ceux qu'on connaît pour ce genre de musique, genre Yvette Horner et compagnie,
non, ouais.
qui peuvent être des très grands musiciens, mais bon, avec quand même un répertoire assez particulier. Mmh. Et donc c'est pour ça que lui aussi, il a dit pourquoi. Et puis, enfin, les gens aussi disaient que les gens regardaient l'accordéon comme un instrument un peu de blague, enfin, pour se moquer.
Mmh.
Et donc lui, il a dit, il a voulu le prendre au sérieux, donc pour faire un instrument sérieux.
Mmh. Est-ce que vous connaissez Brad Kobe Beach?
Yes. Vernegrad. The Vernegrad record had a big. When I heard that, my head just, my ears.
Oh, yeah. Oh. Eh oui.
Albert Marqueur.
Albert Marqueur, bien sûr.
Big fan of Albert Marqueur. Let's see, Fred Frith.
Yeah.
The early Gravity. Fred Frith's Gravity and the Speechless were big.
Speechless, yeah. Mm-hmm.
Captain Beefheart.
Trout
Mask Replica. Very big. The X and Tom Cora.
Mm-hmm.
Skeleton Crew. Yes. These bands were, to me,
Zia Parkins.
They were Zina Parkins, right? Mm-hmm. These people were making new music. They weren't. There was no nostalgia about it. It was like they were. Yeah. This was just stuff that just sounded so inventive and so original. Mm-hmm. They borrowed from folk music, but they did crazy things with folk music. Mm-hmm. They just completely busted it open. It was incredible. And it was kind of a World Cup seat. We didn't know about these bands in the United States. These bands didn't really make it over there. So I had a friend, Jonathan Thomas, who was the percussionist in Amoebic Ensemble, had a very large record collection of Rock and Opposition Prague and Canterbury Prague and a lot of psychedelic music and company music. And he fed me music for reason. This guy, I had another friend who played for Fiza, who had just fed me musical information. His name was Chris Adams.
Donc là, enfin, donc, tu parlais de Brad Kubis, donc oui, il connaît évidemment Beknagar, et ça a été un disque très important pour lui.
Oui, oui.
Et après, donc, il a cité tous les groupes.
Bon, Skeleton Crew, Fred Smith.
Et ZX avec Tom Corin, etc. Donc tous ces groupes qui ont été très importants. Et en fait, dès qu'il y avait... Lui, il n'y avait pas dans son bled, il n'y avait pas forcément beaucoup d'accès à ses musiques. Et en fait, il avait quelques amis qui lui ont, notamment Thomas Jefferson, qui était très dans tout ce qui est rock opposition, musique édélique, qui lui a fait écouter tout ça. Donc,
je suis Alec Redfern. We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec Alec Redfern, que nous avons vu en live et que nous avons interviewé à Reims, à l'Écluse, à Reims, mercredi soir. Est-ce que tu te sens en décalage par rapport à ce qui se fait, est-ce que tu te sens vraiment en marge ou, moi je fais écouter ta musique à n'importe qui, les gens aiment beaucoup. Est-ce que toi tu te sens en marge?
If you feel that you and your music is a kind of gap between your music and what's going on, or you are busy. Because you say that when you're giving to listen to doing music to
my girlfriend, friend, for example, yeah.
Yeah. Everybody loves it.
Oh, yes. Yeah. Well, we're really trying to create something, a new sound with this. I just want to be. I want to do something that's singular. I don't want to do something movement oriented. I just want to be. I'm more of the kind of. You know, I'm more of a musical lone, very much. I want to distance myself from everything that's happening and create something that's just mine, you know, or ours, you know, something that's just, because there's so much repetition, there's so much just kind of repetition, and I just don't know why people aren't trying to make new music. People seem to want to just sort of wallow in different genre ghettos, I really feel like there needs to be more people striving to move music forward, you know. I mean, borrowing from the past, but instead of just going, I'm going to make a heavy metal band, or I'm going to make a punk band, or I'm going to make a band that sounds like the first Alabama record. I don't want to do that. I want to take little pieces from all make it, but at the same time, kind of have the melodies come from, you know, from an emotional place, you know. And in that sense, it's emotional and very ecstatic music. Ecstatic. Almost religious.
il cherchait vraiment à faire un nouveau son. Et d'avoir une musique qui soit singulière, qui lui soit propre. Il cherche pas à créer de mouvement en particulier, il veut vraiment faire un son. Et ce qui lui arrive le plus de mal à comprendre, c'est pourquoi les gens sont tant dans la répétition, essayent de faire un groupe d'un tel genre et ne cherchent pas justement à faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, et à pousser la musique toujours vers l'avant. En plus, c'est ça qui l'intéresse, c'est de faire sortir ce qu'il a en lui, ses émotions et sa musique. Il disait à la fin, c'est qu'il était très musical, un peu extatique c'est presque religieuse, en quelque sorte, qui t'élève.
Est-ce que tu es pessimiste par rapport à au manque de d'enthousiasme d'un certain public? La musique qu'il fait c'est pas super populaire, hein, je pense. Est-ce qu'il est pessimiste? Je demande ça parce que j'avais vu sur internet des propos de Alec Redfern qui étaient c'était très très pessimiste, et je m'étais même demandé. Je lui avais envoyé un petit message. Nous, on aime ta musique. J'avais peur qu'il se suicide, en fait.
He said that he read on the internet that sometimes he's saying that you are very pessimistic about how people just listen to your music and taking it. And he would just send to you a message and say, no, we love your music. Just okay. And he was just worried that you commit suicide or something like that.
No. I come from a depressive family, and I think I have a depressive personality. So I think that's what it
is. Je demande s'il est pessimiste parce qu'il a commencé quand même en disant qu'il croyait pas trop en l'humain.
Yeah, because you began to say that you don't really have faith in the humanity. So.
I believe that humanity is incredible. The human race is incredible. The things that the human race has done are absolutely incredible. The fact that we've completely taken charge of our own evolution is incredible. It's unbelievable. And the fact that we're this mold that grew off this planet into this incredible intelligent thing is massive. But I feel that our sort of hardwired animal movement states are very violent and very territorial. And I feel like since we're taking charge of our evolution, we need to really we need to find a new sort of philosophical realm where we can kind of address our animal instincts and learn to channel them just the right way, rather than shooting up a school with a Kalashnikov or something, you know. I think it's a global problem, and I think we're probably on the same page about this.
C'est pas exact, enfin, disons que c'est plus compliqué que ça. Il y a une partie en fait de fascination pour ce que l'homme a fait, de la capacité de l'homme à prendre en charge son évolution, son histoire, une forme de transformation de la Terre. Donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. Mais qu'en même temps, dans l'homme, il reste toujours un des côtés très animaux de violence et aussi un rapport au territoire un peu particulier. Et donc, son rêve, ça serait que justement l'homme puisse arriver à contrôler ça à travers une nouvelle philosophie, une nouvelle base philosophique pour pouvoir justement arriver à maîtriser ça et à continuer.
Connais la musique alternative tchèque?
Do you know the Czech alternative music?
Je demande ça parce que en fait il y a nous dans notre émission nous passons très souvent de la musique alternative tchèque et très souvent à la Carré de Fer And the Isor et tous les groupes. Et en fait, on avait discuté avec Christophe Payer, qui nous expliquait que sur la quarantaine de groupes qu'on passait dans notre émission, nous, il y en avait deux, trois, je crois, où je mets Doma, Tissi, Tchatsi et Batsarek, qui étaient professionnels, qui vivaient de leur musique. Donc je voulais savoir si lui et ses compagnons étaient professionnels et vivaient de leur musique. Et c'est pas une question de qualité. Les groupes chefs qu'on diffuse dans notre émission sont excellents, mais ils sont pas professionnels. Ils sont...
Yeah, he was asking because in our radio show we very often playing some Czech music and all kind of different kind of groups. And all these groups, there's only three that are living with their music.
Oh, okay.
Who are professionals. And so he was asking if you are also living of your music, like professional thing. Or...
I have Matt and I, the drummer, and I have a band called The Hornets that will play folk music and like kind of more revved up rock and roll versions of folk music, like from Eastern Europe and Brazil. Mm-hmm. And that band occasionally makes a little bit of money because it's only three of us.
Mm-hmm.
Eyesores has been kind of a money pit. Mm-hmm. Well, that's a bit of an idiom, I don't know. We spend more than we make, definitely. I'd like that to be different, and I hope that's going to change.
But you are living off your music? Are you doing only music, or you have another job?
I have another job. Mm-hmm. I have a job where I record, I'm an audio engineer that records audiobooks.
Audiobooks.
So I don't narrate, but I record the narrators and I direct. And that's part-time work. I'm having some money problems. And it would be great if the music, we were able to make more money doing this. I think it's possible. And there needs to be, we need to be more active. And I'm hoping that's kind of, that we're moving towards being more active than we're traveling more, because that seems to be potentiel.
Oui. Et que non, loin de là, c'est pas en tout cas pas avec le groupe Eyesores. Il fait avec donc le batteur. Ils ont un autre groupe où ils sont trois, où ils font des trucs un peu plus folk et world music. Donc là, ils gagnent un petit peu d'argent. Mais sinon, en fait, il a aussi un autre boulot essentiel. Il enregistre des livres audio. Donc lui il fait pas la narration, il fait juste l'ingénieur du son.
Ouais.
Donc en fait Eyesores c'est plus il dépense plus d'argent qu'ils font. Et c'est vrai qu'ils aimeraient bien en faire arriver à être un peu plus actifs, à bouger un peu plus pour pouvoir gagner un peu plus d'argent avec leur musique.
Nous avons fait il y a quelques temps une émission dans notre émission, une émission spéciale sur Providence. J'étais étonné beaucoup de The Eyesores, Barnacle, Beat Circus et beaucoup d'autres, beaucoup de groupes. Comment expliquer qu'il y ait une telle effervescence, tellement de groupes intéressants dans Providence?
A few times ago, we made a radio show on Providence, or the music from your city, and there was a lot of course, Eyesores, Barnacles, and other groups where you are involved in, and so many groups. And we're asking how it's doing that there is so much music in Providence, in those kind of interesting groups.
Oh, it's a great place. Yeah, I mean, right now. It's been less experimental. Mm-hmm. There's been more of a country rock movement going on. Some of it's very good, but it's not as adventurous as the days of. There's a band called Brown Bird that I really like from town. There's a band called Voodoo Sister I really like, and they're doing folk music, and that's good. They're good musicians, they're good singers and songwriters. I wish that Providence, there was more of an audience in Providence for experimental music, but there's been less of one lately.
Before, there were more people who were listening to. Yeah,
I think.
In the 90s?
In the 2000s.
2000s.
Yeah, that's when Fort Thunder and Lightning Bolts and Aragon Radar and those bands kind of exploded. There was, Providence was really fun during that period. it's just different now. It's not necessarily bad. It's just a little calmer, and it's just a little. I mean, we're doing okay. You know, our audience interest in Providence tends to fluctuate. Right now, it's kind of hit or miss. Shows are sometimes good, sometimes not great. But usually, if people are there, they like it. You know, it's hard. A little bit hard getting good gigs in Providence. We did have a really good show right before we left, opening for Groundwork for their record release party. But yeah, it's a cool place, definitely.
Ah, du coup, Providence, c'est une ville assez intéressante. C'est vrai qu'au début des années 2000, il y avait quand même beaucoup justement de musique assez expérimentale, et qu'on avait l'explosion de Lightning Bolt notamment, et de d'autres groupes comme ça qui ont fait que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de public qui venait pour leur genre de musique. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que ça diminue un peu, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens pour l'expérimental, ils sont plus du country rock et du folk, alors qu'il y a des bons groupes, ils sont des bons musiciens, etc., mais c'est un peu moins. Et donc là, le public varie, il peut y avoir des bons. C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux et de magasins de disques.
Il y a une scène à Providence, enfin, je veux dire, il y a un lieu de concert à Providence.
And is there one place where there is a concert mainly, or where you can play, and you know that there is always kind of great group? And
there's several places to play in town. There's a lot of clubs. The one club I like the most.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lieu à Reims, c'est l'Écluse, le lieu où c'est une maison en fait. On a vu Al Carrot Film and the Eyesore. C'est un lieu de concert, c'est une maison. Vous pouvez entendre en fond sonore nos camarades du groupe Edward qu'on avait reçu il y a quelque temps, voilà, qui était en deuxième partie. Et voilà.
Right, they had no licenses for anything. And then when I was a teenager, I came into that organization, and that was kind of a big part of what was happening there. It was completely, very much the temporary autonomous zone model. You know, like, it was craziness happening there. Things were happening on stage, and I had no idea what. Just totally baffling stuff was happening on stage there. And, you know, the collective was started by a group of artists and a group of kind of people that were crazy, that were actually literally insane. And so the collision of those worlds were wild back in the early days.
And when you began, it was in the 90s, in the 90s or
2000s? It was about 1988 that I started getting involved in music in Providence. 1988 was the first where I started playing in town and hanging out in town.
On dit qu'il y avait pas mal de lieux, enfin, qui existent à Providence, ou des clubs où on peut jouer. Et il y a notamment un lieu. What's the name again of this place?
AS220,
donc AS222. Donc c'est qu'un lieu qui a commencé tout petit, et donc la place n'était pas comme un squat parce qu'ils louaient le lieu, mais par contre ils avaient aucune licence pour pouvoir faire des concerts, ni faire des restaurants, ni faire des galas, etc. Et en fait c'est un groupe d'artistes qui ont fait ça avec des gens qui étaient réellement fous. Donc il y a le lieu a grandi pour faire donc des galeries, restaurants, puis des lieux de concerts. Et donc lui il a été très mêlé à ça à la fin des années 80, et c'était un lieu vraiment très très intéressant parce que ça bouillonnait un peu partout.
Thank you.
Bon, je suis étonné par la jeunesse en fait des musiciens qui accompagnent Alec.
See, you was kind of very astonished by the use of the other musician.
Oh yes, well.
How are you?
This is a really good group of people. Cyril's been also a really good big part of this this kind of new movement of the band, and I think he's helped us out a lot. This has been a great tour. But the rest of the band is Anne Chattel on the cor français, the French horn. I don't know if you call this cor here.
Cor.
The organ, Ryan Rigel Damasi, who is also a solo artist, and Cyril has booked shows for her and released one of her records. And this Matt McLaren, who you met earlier, who's an incredible drummer. And Chris Sadler, so the incredible contrabass player. And I think these are people that really understand what the music needs. A lot of it I've written out and arranged, but I always give them parts with this sort of saying, okay, make this your own. You know, this is your jumping off point, and you know, improvise with them. You know, if you want to improvise, if you want to shift things around to make them more comfortable in your instrument, or if you feel like you can improve on this, try stuff out. You know, so I'm definitely the producer, composer, and arranger, but there's a certain amount of interplay and freedom with the band too. You know. And these are all really great people in very different ways. Everyone brings a very different kind of thing to the table. But the key thing in choosing a band is to learn, and arranging for a band is learning to play to the strengths of the players. To find out what each player does, what their instrument does best, what they do best, and what fits the tune best. So that's kind of where that's at.
Oui, en effet, que le groupe est assez jeune, et donc il y a une dame au cornet. Au cornet. C'est moi qui joue du cornet l'autre jour. Au corps, comment elle s'appelle déjà?
Anne.
Orion.
Orion.
À l'orgue, c'est.
Orion Rigel Damasi.
Voilà. Et à la contrebasse?
Chris Sadler.
Et donc à la
Chris
batterie?
Chris Sadler. Ah, c'est lui. Okay. From Difficult, where is it?
Je vais peut-être d'abord finir de traduire avant que tu repartes.
He's not here. Okay.
Il disait que donc que tous les musiciens avaient chacun un peu leur propre qualité, et en fait il leur donnait les parties à jouer, et après en disant vraiment qu'ils pouvaient aussi eux-mêmes réarranger, les sentir, faire un peu comme ils sentaient, improviser dessus, etc. Qui était important de pouvoir vraiment qu'il y ait une forme de liberté dans l'interprétation des morceaux, et que le choix des musiciens, l'important c'est d'arriver à trouver la force en chacun, la force qu'il y avait dans l'instrument pour pouvoir faire un ensemble. Et donc, peut-être la question que je posais par rapport à ça, justement, les musiciens, tu joues avec eux depuis longtemps, et donc tu dis que c'est toi qui donnes les parties, donc comment tu composes les musiques, et comment ça se passe justement la partie de création? So the musicians you are now playing with them. You are playing a long time ago with them. It's a long time you're playing with them. And the second question with this is about the composition. And you are doing all the job. You are writing the music and the words when there is, or how it's going on for the composition of music.
Okay. I am the only member left from the original one as far as I know. Matt and Anne both joined Barnacled around the same time, around 2000. Actually, no, Anne joined about 2 months before Matt. And Icewars were on a short hiatus, we were taking time off. Mm-hmm. And then someone wanted to release our record. And every time when someone wants to release the record, there's been several points where people have wanted to release a record for the Icewars, and I've brought the project back from the dead, basically. And in 2003, or 2002, I invited Matt and Anne from Barnacle to play with the Eyesores, they just fell right into place beautifully. They like did great things right off the bat. As people from the original, the earlier lineup, Margie Wink, who is the original bass player, moved to D.C., moved to Philadelphia, actually. And then Chris just kind of popped up and sent me an email out of the blue and said, I heard you need a bass player. Mm-hmm. And he was young, and that was around 2005, 2006?
He was a fan of the band.
Okay. And actually remembers all the information. Ryan, I met in 2005. And we were dating for many years, on and off. And around 2008 is when Orion joined, or 2009. Orion had done guest vocals on several of our records. Mm-hmm. And she and I, while we were living together, found an organ, a bass tone top five combo organ. And I said, you should try playing this in the group. And so that was about 2009, I think. And we decided in 2009, the band was once again on a hiatus, and I had gotten an email from someone in Germany who said that there was a German pirate film that wanted to use one of our songs. And I was like, well, we should get the band going. So we decided to make Sunday Afternoons rehearsal, a regular rehearsal. And the band was about 11 or 12 people. And slowly people fell away. Or were just kind of... And eventually we were left with the six-piece with Frank. And then shortly before the tour, Frank and I kind of decided to part ways because he was getting involved in his video projects and just didn't really have... wasn't that interested in being a musician anymore. I think he wanted to do more soundscape, and he's more interested in film and sound design than he is in being a musician per se. So that's why Frank did. So we were left with the powerful five-piece band, probably the most powerful version of the band, because everyone has been completely locked in and everyone is essential.
Okay, so I will try to sound set now.
Okay, yeah.
Au départ, donc Aïssor, en fait, était avec d'autres musiciens, et c'est vrai qu'il y avait des hauts et des bas, les choses se passaient comme ça, il n'y avait pas forcément de continuité dans le groupe. Et donc il y avait des gens qui étaient là et ils jouaient pas forcément tout le temps. Et puis après, donc il y avait avec vers 2002, et donc il y a eu Anne qui était au corps, qui les a rejoints, puis ensuite Marc. Et en 2005, en fait, il y a le contrebassiste qui lui a écrit, qui était un fan de leur groupe et qui voulait jouer avec eux. Donc il a pris. Et puis ensuite, en 2008-2009, il y a eu donc Orion qui est donc au clavier et au chant, ils avaient une histoire avec Alec, donc qui était comme ça plus ou moins, et qui avait déjà chanté pour le groupe à quelques moments donnés. Et un jour, ils tombent sur un organe, et donc ils disent, tiens, ça pourrait être sympa que tu joues avec l'organe. Avec l'orgue dans le groupe. Et donc ils sont mis comme ça à jouer, et à un moment donné, c'est en 2009, et ils ont reçu un courrier d'Allemagne. C'est quelqu'un qui faisait un film pirate et qui voulait utiliser une de leurs chansons. Et donc du coup ils se sont dit qu'il fallait qu'ils prennent les choses sérieux. Et donc ils ont commencé à faire tous les dimanches après-midi des répétitions. Au début le groupe c'était 11 personnes.
Ouais.
Et puis progressivement les gens se sont dispersés. Ça s'est réduit à 6. Et puis finalement il y a encore un qui est Franck qui était avec eux, qui faisait de la vidéo, beaucoup de vidéos et de design comme ça, et donc qui a préféré arrêter la musique. Et donc le groupe s'est concentré sur les 5 actuels, les 5 les plus pour lui, voilà, les essentiels, et arriver à faire sa musique.
D'accord. Moi je voulais demander à Matt. Matt, il a, comment dire, quand on voit sa batterie, elle est très épurée, caisse claire, grosse caisse, et tom basse. Pas de cymbales, pas de tom, pas de fioritures. J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a poussé à choisir ça. Comment il en est venu là, en fait, à cette épure.
Yeah, but when you're looking at your drums, it's really minimalistic. Yeah, there's no cymbals, no tom, nothing. So how do you get to this kind of
very simple drums.
Being minimalistic.
Yeah.
And leaving things at home.
But why?
Well, you know,
it's
less to carry.
It's easier to carry.
I don't think it's easier.
C'est plus facile à porter, à transporter.
Ah, transporter, okay. Voilà.
But, you know, the cymbals are deliberately taken out, and but the drums, because the drums sound good and give bottom. And
the frequency, one of the reasons why we decided to remove the cymbals.